Je vous invite à un feu de camp avec le père Romano Guardini dans la belle forêt de Bavière. La nuit est tombée et il veut répondre à ses étudiants et ses jeunes professionnels qui lui ont proposé comme thème comment durer dans la prière, comment nourrir sa prière et durer des années, des dizaines d'années dans la prière. Alors Romano Guardini a ressorti un livre qui avait été publié après la guerre de 39-45 et qui reprenait des conférences qu'il avait données en 1940 dans une église de Berlin, alors que la guerre approchait ou que la guerre était même, quand il terminait son cycle de conférences, que c'était la guerre, c'était la Seconde Guerre mondiale. Il nous dit qu'il pensait à cette église des Jésuites, Saint-Canisius à Berlin, où il avait prononcé ses conférences. Il dit que cette église n'était pas bien belle, mais les bombes l'ont détruite. Et quand il était temps de monter en chaire pour faire ses conférences, on venait lui dire régulièrement: faites attention, les gens de la Gestapo sont là. Ne dites pas n'importe quoi, parce que sinon, vous allez vous faire arrêter, et nous aussi. Et il dit qu'il pense avec nostalgie à ses conférences, parce qu'elles lui ont permis de parler, ses soirées, ses conférences en soirée, alors qu'il avait été interdit d'enseignement à l'université et qu'on lui avait aussi interdit de publier ce qu'il était en train d'écrire. Il reprend une conférence importante à ses yeux et qui veut lui permettre de répondre à cette question: comment durer dans la prière? Il y a des mots qu'on ne peut presque plus entendre sans quitter son objectivité. Des mots parce que leur contenu est depuis longtemps objet de discussion. Des mots qui incitent à prendre position. On pourrait commenter un peu en disant des mots polémiques et politiques. Le mot dogme appartient à cette catégorie. Pour l'homme de prière, pour celui qui cherche la contemplation, un tel mot, dogme, exprime quelque chose de vénérable, de majestueux, de rigoureusement sacré. Pour d'autres, au contraire, ce mot exprime quelque chose d'étranger, de rigide, de violent, qui rend méfiant et qui porte à se mettre sur la défensive. Vous avez deviné que Romano Guardini va se faire un ardent défenseur du dogme et il va nous dire et nous redire encore: le dogme est un instrument au service de la prière. Et après les sacrements, après toute la liturgie elle-même, les symboles de la liturgie, après le Notre Père, après Saint Paul et toute la Bible, il y a une autre réalité terrestre dont nous pouvons dire qu'elle est signée par Dieu, et ce sont les dogmes. Il va essayer de bien nous convaincre que les dogmes portent la signature de Dieu lui-même et nous permettent d'aller plus loin dans la prière, dans la communion avec le Seigneur en personne. Le dogme a toujours eu une très grande importance dans la vie de l'Église. À cause de cette importance, nous devons essayer de dépoussiérer ce mot, d'abord le mot, de l'imprécision et des déformations dont un emploi exagéré ou un emploi détourné, dévié, a pu entourer ce mot. Il faut oser une définition de ce qu'est un dogme. Dans le langage courant, et même dans le langage politique, nous pensons encore que tout cela a été médité alors que le nazisme avait recouvert d'une chape de plomb toute la vie sociale et intellectuelle de l'Allemagne de Romano Guardini. Dans le langage courant, même dans le langage politique, on va appeler dogme toute déclaration qui définit une chose donnée, qui l'exprime avec précision et qui prend la responsabilité de sa vérité. Eh bien, le langage courant rend fausse la bonne définition parce que le mot dogme, comme le mot baptême, comme le mot exorcisme, appartient au langage de l'Église. Il n'y a de dogme que dans l'Église, et c'est l'Église catholique qui a inventé les dogmes et la dogmatique. Alors seule l'Église peut nous apprendre de manière fiable ce qu'est un dogme. Et elle va nous dire qu'on appelle dogme quelque chose d'extraordinaire et de rare. Quelque chose qui est une décision en matière de foi que l'Église prend elle-même en toute conscience de sa responsabilité et avec tout le poids de son autorité. En matière de foi, la foi comprenant la grande morale de l'Église, la foi et la morale. Cette décision représente toujours la conclusion d'une longue suite d'expériences spirituelles, de recherches spirituelles et intellectuelles, une longue suite de luttes et de souffrances au service de la vérité. Et seul le magistère suprême de l'Église, le concile œcuménique, ou le pape avec le concile ou le pape tout seul, peut décider en matière de foi et de morale ce qui va devenir un dogme. On réserve le dogme aux choses importantes. Et voilà le lien immédiat avec la méditation, la contemplation, la prière. Romano Guardini nous dit, réservez votre prière pour les choses importantes, pour ce qui appartient au noyau de la foi de l'Église. Revenez toujours aux mêmes grandes vérités essentielles, ces vérités rares et précieuses que l'Église a pu transformer en dogme pour notre salut. Une fois que nous avons essayé de saisir avec Romano Guardini la valeur du dogme, comment il est une chose précieuse, Romano Guardini va vouloir nous dire que le dogme est un instrument merveilleux de la révélation. Et que parce que toute prière, qui est une vraie prière, est une révélation de Dieu lui-même, est un moment où Dieu peut se révéler lui-même, se révéler à celui qui est en prière, le lien entre le dogme et la prière est absolument vital pour conserver la prière dans la lumière de Dieu, pour la conserver dans le souffle de l'Esprit-Saint, pour que la prière ne dévie pas vers des chemins qui ne mènent nulle part. Des impasses très belles, comme dans la forêt, comme dans la forêt noire de la Bavière, au commencement très belles, qui deviennent de plus en plus étroites et dont on se rend compte après avoir marché un certain temps qu'elles ne mènent nulle part et qu'il faut rebrousser chemin, que nous avons tout de même perdu notre temps. Même si cela semblait très beau, très sauvage, nous n'avons pas pu avancer. Et il faut faire marche arrière et reprendre la route exactement là où nous l'avons quittée. Panneau indicateur sur le chemin qui conduit à la vérité de Dieu, les dogmes vont nous permettre d'avancer dans la prière. Pour comprendre ce que le dogme signifie, il faut partir de la révélation. C'est dans la révélation que la vérité sainte et divine nous est communiquée. La révélation, c'est quelqu'un, c'est le Dieu vivant. La révélation, c'est le Dieu inconnaissable qui nous montre son visage. Dieu qui n'apparaissait que comme le souverain du monde, à présent entre dans le monde habité par les hommes, et il introduit dans l'ancienne création une nouvelle création qui s'oriente vers l'éternité. Et en fait, la révélation, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il est celui qui révèle parce qu'en lui apparaît le Père. En lui apparaît le Père à tous ceux qui acceptent d'avoir des yeux ouverts par le Saint-Esprit, des yeux qui se mettent à voir. Le Seigneur Jésus annonce la venue du royaume de Dieu. Il enseigne la voie de la véritable vie. Mais là où les choses se corsent un peu, et là où le secours du dogme va devenir essentiel, c'est dans le fait que le Seigneur Jésus est aussi lui-même l'objet de la révélation. C'est celui qui nous révèle tout, mais il est lui-même une réalité révélée qu'il faut scruter, qu'il faut contempler, qu'il faut adorer. Le Seigneur Jésus est en personne le Dieu qui vient, le commencement de la nouvelle création. Nous le savons, il est le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui prie sur le Nouveau Testament va immanquablement se poser les questions: qui est le Seigneur Jésus-Christ? Que fait-il? Quel est le rapport de sa réalité à lui avec celle de Dieu le Père? Et quel est le rapport du Seigneur Jésus avec chacun d'entre nous? Des questions qui sont déjà dans le Nouveau Testament, particulièrement chez saint Paul et chez saint Jean, et qui vont se développer en permanence au cours de l'histoire de la foi chrétienne. Ces questions existent vraiment, elles sont objectives, et le dogme va chercher à répondre à ces questions et à nous livrer une réponse à ces questions. Quel type de réponse? L'exemple que nous propose Romano Guardini, c'est celui du Concile de Chalcédoine en 451. En 451, Concile œcuménique, les pères rassemblés à Chalcédoine, les évêques, après avoir beaucoup prié, après avoir beaucoup médité, vont parler à l'Église du Seigneur Jésus. Nous enseignons tous et à l'unanimité que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il est parfait dans la divinité, parfait dans l'humanité, vrai Dieu et vrai homme. Composé d'une âme raisonnable et d'un corps, il ne fait qu'un avec le Père selon sa divinité et également un être avec nous selon son humanité. Il faut que soit reconnu que l'unique et même Christ, unique engendré et Seigneur, est composé de deux natures, sans confusion, invariablement, indivisément et inséparablement. Puis le texte se poursuit. Eh bien, nous pouvons prier sur un tel texte. Nous pouvons aller chercher un texte de dogme, comme cela, qui vient d'une certaine manière développer le je crois en Dieu, qui vient essayer de dire tout ce qui peut être dit au sujet du mystère de la personne du Seigneur Jésus. Hein? Une seule personne en deux natures, méditer et méditer encore, et la figure du Seigneur Jésus, la figure qui est présentée par saint Paul et dans les évangiles, va devenir de plus en plus lumineuse. Si nous n'avons pas encore fait cette expérience de recourir au dogme pour prier, nous pouvons vraiment la tenter et découvrir à quel point la lettre de la formulation dogmatique va nourrir notre prière pendant des semaines et des semaines. Plutôt que de se tourner vers des commentaires de commentaires, le texte même d'une parole dogmatique va nous permettre d'entrer plus profondément dans la lecture de la Bible. Ce qui est signé Dieu dans la Bible va être éclairé par un dogme dont nous croyons parce que c'est la volonté même de Dieu qu'il est lui aussi signé par l'Esprit-Saint. Prier grâce à des formules qui semblent sèches en apparence et qui en fait donnent énormément de lumière. Ces formules-là, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qu'elles expliquent? Ce que je viens de lire, grâce au texte de Romano Guardini, du dogme du Concile de Chalcédoine en 451, qu'est-ce que cela m'explique au sujet du Seigneur Jésus? La réponse de Romano Guardini, c'est rien. Pour lui, le dogme n'explique rien. Nous ne sommes pas dans le domaine de l'explication. Nous ne sommes pas dans le domaine de la parole qui veut expliquer, encore expliquer, qui veut donner de nouveaux aperçus, qui veut donner des illustrations. Non. Cela n'explique rien. Au contraire, quiconque lit attentivement dans la prière ces phrases va devenir encore plus conscient de l'abîme insondable du mystère. Le mystère ne s'explique pas. Il se scrute, on le laisse venir en nous, on va à sa rencontre, mais nous ne sommes pas dans la logique de l'explication. Tout simplement parce que nous n'avons pas les moyens de nous offrir une explication du mystère lorsqu'il est un vrai mystère, lorsqu'il est le mystère de Dieu ou le mystère du Christ, du Verbe fait chair. On peut franchement dire que la réunion de toutes les déclarations du dogme a pour but d'assurer et d'accentuer le mystère. Voilà. Le mystère est encore plus mystère après la définition dogmatique. Donc ce n'est pas ça que nous cherchons. Et ce n'est pas avec l'intelligence, avec la raison résonante que nous allons à la prière, nous y allons avec toute notre personne, et le dogme nous place d'une façon très particulière dans le mystère. Il n'explique rien, il dévoile à sa manière la profondeur du mystère. Les théories qui réduisent à un point de vue partiel ou qui amplifient, qui simplifient ou qui faussent toutes les théories qui pensaient avoir élucidé le mystère de Dieu ou expliqué le Christ, toutes ces théories sont combattues par le dogme. Et le dogme vient replacer la sainte réalité révélée dans sa liberté et dans sa plénitude qui dépasse toutes les structures intellectuelles. Le dogme est au service de la liberté, au service de la liberté de Dieu, qui a bien le droit d'être qui il est et comme il est, sans que nous ne cherchions à l'enfermer, y compris à l'enfermer dans notre prière et dans nos pensées spirituelles. Et le dogme est au service de notre liberté à nous, pour que personne ne vienne nous imposer sa compréhension, son explication, son élucidation de tel ou tel mystère. Personne n'a le droit. C'est le lieu de notre liberté qui est ainsi protégé par l'Église tout entière, qui nous confie des dogmes pour que nous soyons libres par rapport à toutes les idéologies, par rapport à toutes les philosophies. Et pour pouvoir prier, il faut cette liberté. Lorsque nous allons à la prière, lorsque nous allons à l'oraison et à l'adoration, nous ne pouvons pas y emporter toutes les pensées du monde, toutes les informations contemporaines, tous les débats qui nous entourent, toutes les disputes ou toutes les recherches. Nous allons vers la lumière de Dieu et nous avons besoin d'être libérés des attaches qui pourraient nous retenir loin de cette lumière divine. Le travail du dogme est là. Romano Guardini progresse, il continue à nous faire avancer, après nous avoir montré à quel point la formule dogmatique va nous permettre de nous élever, un peu comme le ballon dirigeable dont on détache les amarres à la vie quotidienne, les amarres aux soucis, aux polémiques, aux luttes de la vie quotidienne, et qui peut s'élever vers le ciel. Il y a cette activité de libération. Toute l'histoire des différentes religieuses, des différentes religions et des différents religieux est remplie de la volonté qu'a l'homme de dominer le divin. C'est ce que l'homme fait lorsqu'il reforme Dieu d'après sa propre image. Alors l'homme succombe à l'étroitesse de sa propre nature. Eh bien, la révélation vient nous libérer de cette tentation. Et la révélation nous ordonne, paisiblement et gentiment, mais nous ordonne de ne pas prendre comme base de notre prière soit nos propres expériences et nos propres pensées, soit les expériences et les pensées des autres, mais de prendre comme base de la prière les paroles du Seigneur Jésus, les paroles du Seigneur Dieu, et il rend accessibles ces paroles en les illustrant, en les reformulant grâce au dogme. Et cela, c'est une délivrance. Chacun aurait une manière à lui de comprendre la vérité qui vient de Dieu. Chacun choisit ce qui correspond à sa nature profonde et écarte d'une manière spontanée ce qui lui est étranger. Et cette tendance se rencontre chez tous les priants, même les meilleurs, même les plus pieux, les plus fervents. Eh bien, c'est la raison pour laquelle le dépôt de la révélation n'est pas confié à tel ou tel individu. Il est confié à une puissance qui transcende toutes les structures humaines. Et cette puissance, c'est l'Église qui doit formuler des dogmes. Cela ne veut pas dire que cette puissance est sans défaut, qu'elle ne subit aucune influence, mais il y a des moments où elle va faire corps avec la révélation et où l'Esprit Saint va s'emparer d'elle pour la maintenir au-dessus des caprices et des erreurs de son temps et lui permettre de donner à tous ce trésor qu'est une formule dogmatique. Une formule dogmatique authentifiée par toute la communauté d'Église, portée par l'Esprit Saint, authentifiée par le magistère. Notre liberté dans la prière vient de notre accueil de ces formules dogmatiques qui sont d'origine divine et qui nous garantissent notre communion avec la vérité divine. Voilà la réponse un peu étonnante de Romano Guardini à cette question: comment durer dans la prière? Comment durer des décennies dans la prière? D'accord, le dogme, mais tout ça est tellement loin de nous. Tout ça semble tellement loin de nous, les quatre adverbes de Calcédoine. Cette objection, Romano Guardini l'a entendue, il l'a entendue en direct, et il va y répondre, mais d'une façon un peu incisive. Il dit oui, bien sûr, alors on a tenté de rendre le dogme plus proche de nous, plus proche d'aujourd'hui, en se mettant à parler de sa valeur vivante, la valeur vivante du dogme, en montrant par exemple comment le dogme de la rédemption accompli par le Christ, c'est vraiment un dogme, nous sommes libérés par le Christ. Comment le dogme de la rédemption va nous apprendre à nous libérer des conditions de notre existence qui nous emprisonnent. On sent déjà une attitude polémique à l'égard d'une interprétation marxiste du dogme chez Romano Guardini, qu'il développera longtemps après. Voilà, donc ça c'est plus proche, c'est plus concret. Méditez sur le dogme de la rédemption et vous allez avoir encore plus envie de vous libérer, non pas des idées fausses, mais des conditions de votre existence. Comment par exemple le dogme de la grâce, si difficile à scruter, mais si beau, si transformant, comment ce dogme de la grâce va vous donner confiance en Dieu et en même temps vous donner de l'assurance dans votre action. Donc, les dogmes peuvent être rendus plus proches de moi, ils peuvent me parler davantage si je leur trouve une application concrète, immédiate. Oui, ces considérations ne sont pas fausses. Et toute l'histoire du catholicisme nous montre comment les dogmes vont conduire à se conduire d'une façon différente, à conduire son existence d'une façon différente. Ces considérations ne sont pas fausses, mais elles sont secondaires. Non, vous ne pouvez pas finalement essayer de rapprocher le dogme de votre vie, de le rendre plus concret de cette manière-là. Le sens profond du dogme n'est pas de servir les intérêts de ce monde. Le sens profond, c'est de défendre la liberté et l'intégrité de la vérité de Dieu. De la vérité. La vérité au sujet de Dieu lui-même et au sujet du plan de Dieu. Défendre la liberté de la vérité. Si nous voulons aller jusqu'au bout, la vérité en tant que vérité n'a pas d'utilité, ni en soi, ni relative. La vérité n'a qu'une raison d'être, c'est d'être justement la vérité. Elle ne sert pas immédiatement la vérité est sa propre lumière. La réponse qu'exige la vérité qui se révèle à nous, Dieu qui se révèle à nous, n'est pas avant tout de coopérer avec elle, mais avant tout, en premier, de respecter sa majesté, la splendeur de la vérité, d'être rempli de gratitude pour cette splendeur, d'être émerveillé et rempli de louanges et de reconnaissance. La contemplation réelle de la vérité est la plus haute valeur de la vie. Voilà la profession de foi contemplative de Romano Guardini. Et plus vous serez désintéressé, plus vous serez fécond dans votre vie et dans votre vie de charité. Rien n'est plus élevé que la contemplation réelle de la vérité. Cette contemplation signifie que l'esprit entre dans la clarté. Dans cette liberté et cet ordre de toute chose qui s'appelle la vérité. Et si l'esprit aime la vérité, apprend à aimer la vérité, apprend à connaître la vérité, l'esprit va accomplir la justice. Soyez désintéressés, ayez une vie contemplative désintéressée. La grâce peut accomplir infiniment davantage que toutes vos planifications. Laissez simplement la lumière de Dieu entrer en vous. L'esprit ne va pas accomplir d'un seul coup la justice, ni tout de suite, mais il va prendre petit à petit, vis-à-vis de l'existence, une position intérieure. Les expériences ne rendent pas plus avisé pour la prochaine fois immédiate, les expériences de Dieu spirituel, il n'y a pas d'efficacité immédiate, totalement tangible, mais ces expériences de la vérité de Dieu rendent plus sage à jamais et pour l'éternité. La patience. Dieu prend son temps, nous devons accepter de marcher au pas de Dieu surtout lorsqu'il s'agit de contemplation et de fruits de la contemplation. Pour des personnes comme beaucoup d'entre nous, qui ne croyons qu'aux utilités immédiates, aux intérêts, aux performances et aux puissances, aux améliorations du standard de vie, aux accroissements du rendement, il est encore plus important de comprendre ceci. Il n'existe rien qui doive asservir la vérité. Nous ne pouvons pas utiliser la vérité de Dieu pour réussir telle ou telle chose. La vérité divine est au-dessus des moyens et des projets. Si elle possède vraiment cette majesté dans l'esprit de l'homme, elle va imposer sa forme à toute la vie et elle va s'extérioriser dans des êtres et des actes qui vont être conformes à la vérité et à la justice. La vérité est comme la lumière. En dernière instance, on ne la veut pas pour pouvoir suivre le bon chemin et bien faire son travail. Tout cela est secondaire. On veut la lumière parce qu'elle est la lumière. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans la lumière. Demandez à l'aveugle ce que signifie de ne pas avoir la lumière. Et il n'aura pas de réponse utilitariste. Dans cette lumière, les chemins deviennent visibles, bien sûr, et les opérations réussissent. Mais la vérité est plus que cela. Elle est la lumière de notre existence véritable profonde. Nous sommes tous affamés de vérité. Nous avons tous besoin de connaître le sens de toute chose, afin de vivre et afin de nous déployer. Et l'expression dogmatique de la révélation va nous aider à comprendre le sens de Dieu et le sens de toute chose. Le christianisme ne peut pas être asservi à des finalités. Et de la même manière, la prière ne peut en aucun cas être asservie à des finalités. Et là, nous devons absolument faire notre examen de conscience. Est-ce que même la prière contemplative, même la prière d'oraison, ne peut pas être assez facilement asservie à des finalités? Je prie afin de pouvoir mieux faire ceci ou mieux faire cela, même afin de pouvoir mieux évangéliser. Ce n'est pas la prière telle que Dieu la veut. C'est une des formes de prière, mais ce n'est pas la prière avec une majuscule. Nous avons moralisé la foi, dit Romano Guardini. Nous l'avons réduit à des activités et à des pratiques, et elle en a été dénaturée. Il faut que nous reconnaissions que la vérité de la révélation ne nous a pas été donnée pour que nous en fassions quelque chose, mais elle nous a été donnée pour que nous l'adorions et que nous vivions en elle. Bien sûr, adorer et vivre vraiment, et non pas seulement écouter, expliquer, lire, parler, prêcher, même admirer, même goûter, apprécier. Non, adorer et vivre. Et très certainement dans cet ordre-là, adorer et vivre. Si on dit qu'il faut d'abord vivre et ensuite seulement philosopher, les choses s'inversent. Il faut adorer et ensuite vivre. C'est cet ordre-là que le Seigneur est venu nous proposer. Eh bien, ce n'est pas facile d'être dans ce chemin de l'adoration qui conduit à vivre, parce que nos réflexes spontanément ne sont pas ça là. Une telle attitude est difficile et elle exerce pourtant une action plus profonde que l'action pure. Dire oui à la lumière de Dieu, c'est agir. Dire oui à la révélation de Dieu, c'est agir. Dire oui au contenu des dogmes que nous propose l'Église, c'est agir. C'est une action silencieuse, de nature intérieure. C'est l'action des actions, parce que c'est l'action de la conversion intérieure de la pensée. Et au risque de dire souvent la même chose, c'est grâce à saint Augustin que nous comprenons Romano Guardini. Et Romano Guardini nous aide à comprendre saint Augustin, et les deux ensemble nous aident à accueillir le Seigneur Jésus et son évangile. La conversion intérieure de la pensée et de l'être. Voilà ce qu'opère cette contemplation de la splendeur de la vérité, la conversion intérieure de la pensée. Et à nouveau, la conversion, c'est aller plus haut et plus loin. La conversion, ce n'est pas d'abord changer de direction, c'est un des sens de la conversion, mais la conversion dans son sens le plus évangélique, le plus spirituel, le plus chrétien, c'est plus loin. Aller plus loin avec sa pensée, avec son âme, avec son agir, voilà ce que va produire l'adoration et la contemplation de la vérité. C'est ce qu'on appelle l'action de la prière contemplative. Voilà ce en quoi croit Romano Guardini. L'action de la prière contemplative. C'est une action qui requiert un effort, l'effort de maintenir son être spirituel en contact avec Dieu qui se révèle, en contact avec Dieu qui nous aime en révélant son amour, en contact avec Dieu qui est amour et dont nous devons inlassablement chercher à découvrir l'amour. Nous devons davantage croire en son amour. Maintenir notre être spirituel en contact avec Dieu. Obtenir que nous affrontions toutes les contradictions qu'on oppose à la vérité de l'Évangile, pour que cette vérité de l'Évangile, cette lumière de l'Évangile, nous envahisse et nous envahisse encore, afin que Dieu lui-même, la Trinité très sainte et glorieuse, vienne établir sa demeure en nous pour nous transformer, pour vivre la communion avec nous et nous avec lui. Dans cette communion infiniment lumineuse, infiniment saturée d'amour, dans cette communion, l'existence humaine retrouve sa dignité et sa splendeur. Le chrétien parvenu à cet état, à cette étape du chemin, ne peut plus exister que s'il s'enfonce davantage dans la vérité de Dieu. Nous enfoncer toujours davantage dans la vérité de Dieu. Tel est le testament spirituel de Romano Guardini que nous recueillons à la fin de son parcours, grâce à la prière contemplative, soutenue par la force du dogme, s'enfoncer dans la vérité de Dieu.
Chers auditeurs, c'était notre émission Signé Dieu avec le Père Nicolas Sautreau. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.